cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 14 mars 96.
Bienheureux les pacifiques, c'est l'amour. calme, pacifique, dans la mesure même où il y a cette harmonie, cette conformité parfaite avec la volonté du Père. Et c'est le petit point de contact avec la morale stoïcienne. Épictète, le philosophe, doit regarder ça, hein. Il doit essayer de comprendre comment la morale chrétienne va se rattacher à toutes les diverses morales de l'Antiquité. Toutes les morales de l'Antiquité, il y a la morale socratique, la morale platonicienne, la morale aristotélicienne, la morale stoïcienne, la morale épicurienne. Comptez. Hein. Ça en fait 5. Et au fond, tous les types de morale sont leur rassemblés. C'est ça qui est très extraordinaire. Et la morale chrétienne dépasse tous ces essais de morale. La plus proche de la vérité, c'est celle d'Aristote. C'est sûr. C'est pour ça qu'on la suit. Mais la morale chrétienne n'est pas la morale aristotélicienne. C'est plus. C'est la morale du Fils bien-aimé du Père, qui vit une vie humaine. Mais c'est la morale bien-aimée du Fils. C'est une morale familiale, au sens très fort, mais d'une famille divine. Alors, on comprend, puisqu'elle est familiale et divine, que tout demande d'être intériorisé et finalisé par l'intérieur. Bienheureux les pacifiques, c'est cette intériorité profonde de faire la volonté du Père. Dans la morale stoïcienne, Épictète le dit avec netteté. Le sage, c'est celui qui cherche à faire la volonté de Zeus. Mais la volonté de Zeus est beaucoup plus difficile à saisir que pour nous, la volonté du Père, puisque Jésus est le Fils bien-aimé qui nous montre quelle est cette volonté du Père. On a dans le Christ un modèle, ce que les stoïciens cherchaient toujours, puisque la morale stoïcienne, au sens strict, n'est pas tellement finalisée, elle est sur un modèle, et le modèle de Socrate jouait un rôle énorme dans la morale stoïcienne. Faire la volonté des dieux, Socrate était fidèle aux voies intérieures. Et c'était sa grande fidélité, et c'était cela qui, pour lui, était la chose essentielle. Le chrétien cherche à être fidèle à la volonté du Père. Et c'est en étant fidèle à la volonté du Père et l'accomplissement de la volonté du Père qu'il devient pacifique, qu'il y a une paix intérieure et un rayonnement de cette paix intérieure à l'extérieur qui devient faiseur de paix. Voilà l'aspect essentiel de la béatitude chrétienne. Vous voyez, ça nous fait tout de suite comprendre combien les béatitudes, c'est une vie intérieure, fruit de l'Esprit Saint. Et cela, c'est capital de le comprendre. Les autres aspects dont parle Jésus et qu'il affirme. Le royaume des cieux souffre violence. Les violences en emparent. Ça nous montre que nous ne pouvons pas arriver au royaume de Dieu sans lutte. La violence, ici, exprimant la force. Qu'il y a des obstacles. Des obstacles en nous-mêmes, conséquence du péché. L'orgueil, la vanité, la concupiscence de la chair. Obstacles en nous. Obstacles en dehors de nous. Puisque Jésus n'a pas voulu connaît et ils agissent à notre égard constamment comme des frères aînés qui nous terrorisent et qui nous dit attention, attention, fais pas ça, qui nous terrorisent d'une part et qui nous séduisent d'autre part. Les frères aînés, c'est toujours comme ça, toi. Tu dois me regarder, je suis ton aîné. Alors il y a la colère du frère aîné qui terrorise. Et puis il y a le frère aîné qui, à certains jours, veut prendre notre cœur et captiver notre cœur en nous donnant du miel pour que nous tombons dans le piège et que nous laissions prendre. dans le ciel et ne promet pas le bonheur sur la terre. Et c'est ça qui est dur d'être chrétien. C'est que si on est chrétien, on doit lutter plus que n'importe qui d'autre. Et nous avons beaucoup de peine à comprendre ça. Nous avons beaucoup de peine à comprendre que Jésus laisse aux démons un très grand pouvoir. Je dis bien, aucune autorité, mais un très grand pouvoir. Le démon n'a aucune autorité sur nous, mais il a un pouvoir. Il a un pouvoir sur le monde physique, très difficile à préciser. Parce que le monde physique a des lois, mais le monde physique en même temps,
nous montre bien que la béatitude des pacifiques, au sens rigoureux,
nécessaire pour la béatitude des pacifiques. Et la béatitude des pacifiques est l'effet propre du don de sagesse. Voilà ce que le philosophe peut recevoir du théologien et du croyant. Il y a un lien entre ces deux béatitudes qui sont nettes et qui sont les deux extrêmes de toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne est entre la béatitude des pacifiques et la béatitude des pauvres. Et c'est pour ça que c'est si important de saisir ces deux extrêmes. Et puis ça montre, vous voyez, combien tous des condamnés à mort. Et le conditionnement humain, justement le plus radical, c'est celui-là. Et la mort, nous l'avons vu, peut être transformée par l'amour divin. Tandis que l'amour humain ne peut pas transformer la mort. L'amour humain est blessé par la mort. L'amour humain est battu par la mort. L'amour humain est vaincu par la mort. Ça, c'est sûr. C'est le conditionnement radical et substantiel du corps et qui montre comment la béatitude des pauvres éthique qui implique ça. Par l'amour divin. Par l'amour divin, je peux offrir ma vie à Dieu. Et donc, je peux être victorieux de la mort. Et tous les jours, c'est ce que nous devons faire. Quotidiennement, rien. Et tous les jours, nous devons faire ça, parce que nous ne savons jamais le matin, quand nous nous réveillons, si c'est la dernière journée. Et c'est bon d'y penser, du reste. Ça simplifie beaucoup de choses. Quand on se dit « c'est ma dernière journée », c'est possible, c'est ma dernière journée. C'est possible. Loin de me couper, me mettre dans le désespoir, ça met en moi une force étonnante. Parce que je n'ai pas besoin d'entrer au ciel avec des réserves. Pas besoin d'avoir de réserve. Chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire qu'au fond, je dois aller jusqu'au bout, chaque jour, de tout mon potentiel de vie. Ça, c'est la pauvreté. Je n'attends rien du lendemain. Et chaque jour, je recommence. Et c'est peut-être la dernière journée. Et la dernière journée me met justement dans cet état de pauvreté radicale. Et cet état de pauvreté radicale me permet d'être un pacifique. Mais aujourd'hui, il y a plus de lointain. On sait bien. C'est le poids tout à fait particulier qu'on doit porter. Au Moyen-Âge, il y avait du lointain. Les Chinois étaient lointains. Aujourd'hui, les Chinois ne sont plus lointains. Beaucoup de liens, et on est lié à Taïwan. Oui, bienheureux les pacifiques, bienheureux les pauvres. Au niveau politique, ne faisons pas de politique. C'est sûr, nous ne sommes plus du monde, mais nous subissons ça. Et c'est important de réfléchir là-dessus et surtout de prier. Et on doit prier pour Taïwan, on doit prier pour la Chine, on doit prier pour que l'Esprit Saint réalise ce qu'il veut réaliser. Alors l'Esprit Saint, il est de quel côté, hein? Vous ne pouvez pas conclure trop vite. Les méchants et les bons. Attention, attention. Et le troisième. Politique triangulaire. Il y a les deux contraires, puis troisième, alors on va faire la bascule. Oui, devons réfléchir sur cette éthique chrétienne qui assume ces deux extrêmes, les pacifiques, les faiseurs de paix et les pauvres. l'humanisme, cette contemplation chrétienne. La contemplation philosophique n'implique pas ça. Elle implique uniquement le « nous séparer ». Tandis qu'au contraire, la contemplation chrétienne s'enracine dans notre chair, s'enracine dans notre être terrestre et réclame l'offrande de tout nous-mêmes pour glorifier Dieu, pour glorifier le Père. Il y a là un réalisme chrétien qui est unique et que nous devons toucher et comprendre. Ce réalisme de la béatitude des pacifiques qui se réalise dans l'offrande que Jésus fait de lui-même et par lui-même, de tout lui-même. Et c'est ce réalisme-là qui est le réalisme de l'amour divin et qui est plus fort que tout autre réalisme, parce que ce réalisme nous saisit dans tout ce que nous sommes, dans notre personne et notre individualité. Et on est saisi de la tête et du cœur aux pieds. Tout est saisi, tout est pris. Puisque ça se réalise dans l'offrande même de notre vie. L'adoration qui implique cette adoration chrétienne, c'est l'offrande de notre vie et le fruit direct de la contemplation de Dieu le Père. Et cette contemplation de Dieu le Père, sa volonté, son bon plaisir sur nous et sur l'humanité, cette contemplation implique le don de crainte, l'offrande de notre propre vie, l'offrande de tout nous-mêmes au bon plaisir de Dieu. Donc nous sommes là en présence de la finalité. La contemplation, et nous sommes en présence du conditionnement le plus concret qui soit, l'offrande même de notre vie humaine par notre corps, puisque c'est notre corps qui est corruptible, c'est notre corps qui est capable de mourir. Notre âme est incapable de mourir, elle ne peut pas, mais notre âme unie à notre corps peut connaître de l'intérieur, l'offrande de tout nous-mêmes, et donc l'acceptation de la mort. Vous voyez, la mort va être vaincue par l'amour, et va être au service de l'amour. La mort, conséquence du péché. Et c'est là où on peut comprendre comment dans l'éthique chrétienne, le point de vue bienheureux les pacifiques va impliquer ce réalisme extraordinaire de l'amour divin qui récupère la mort, conséquence du péché. On se sert de la conséquence du péché pour montrer jusqu'où l'amour divin est victorieux. Fruit du don de sagesse me permet de me mettre tout proche du bon plaisir de Dieu sur moi, puisque je contemple Dieu en adhérant à sa volonté, à son bon plaisir. Et quand ce bon plaisir regarde ma propre vie et réclame l'offrande de ma propre vie, ce bon plaisir saisit au plus intime de moi la matière même de l'holocauste et du sacrifice. On est devant un sacrifice de sagesse qui se sert de ce conditionnement humain qui est le corps, ce conditionnement de la personne humaine qui est le corps, pour manifester davantage la grandeur de l'amour et la victoire de l'amour. c'est de se servir de la mort pour glorifier le Père. Et c'est vraiment la grande victoire de l'amour, ça. Il ne peut pas y avoir une victoire plus parfaite que celle-là. Puisque la mort est la peine substantielle que je subis sur la terre. Et cette victoire de l'amour sur la mort réclame le don total de ma vie. Et donc la victoire profonde sur toute espèce d'orgueil. Je suis dépendant radicalement de mon Dieu. Et pour vivre cette dépendance, j'adore mon Dieu. Je l'adore. Mais c'est une adoration en esprit, en vérité, qui est une adoration qui s'achève en contemplation. Et qui est une contemplation ? Et je pourrais faire un parallélisme là, toujours pour mieux comprendre ce que c'est que la contemplation chrétienne. Et le philosophe doit essayer de la comprendre. Comme la maternité divine de Marie exprime la victoire de l'amour divin sur le travail le plus radical que la femme connaisse. Maternité, quand elle porte le petit enfant, c'est le travail de la mère. Et ce travail fait que tout point de vue